grande édition avec Didier Arnoux. Bonjour Didier.
Bonjour, bonjour à tous. Et au sommaire de ce journal, nous verrons les conséquences du retour du froid. On a perdu 10 degrés dans certaines régions. Le bassin méditerranéen est particulièrement concerné par le dérèglement climatique. Nous verrons aussi ce que l'ouverture des deuxième et troisième années de médecine à Corté va apporter concrètement aux étudiants et à la santé dans l'île. Du football, on espère ce soir le soulagement pour les clubs corses. Le SCB et l'ACA peuvent valider leur maintien en Ligue 2. Et puis coup de projecteur sur les 40 ans du STC avec un taulier, Jean Brignolet. Il était ce matin l'invité de la matinale de RCFM. Et on débute avec la Corse, placée en vigilance jaune orage jusqu'à minuit pour la Corse du Sud. Demain matin pour la Haute-Corse. Dans le Sud, les plus grosses averses sont à attendre sur le relief et la région de Porto-Vecchio en Haute-Corse. Les plus forts cumuls de pluie sont attendus dans le Cap-Corse. Ils pourront atteindre 10 mm localement. La météo qui fait le yo-yo en ce moment, en Corse comme sur le continent. Des épisodes qui interviennent dans une période charnière pour de nombreux producteurs, notamment les viticulteurs, comme Jean-Baptiste Ferrandi à Barbadio, qui subit de plein fouet le phénomène. Il s'est fait plusieurs frayeurs la semaine dernière lorsque la grêle s'est abattue sur sa vigne.
J'ai eu droit, j'ai été touché de plein fouet, malheureusement. Les pousses sont toutes jeunes, sont toutes tendres, et le moindre traumatisme, surtout sur les cépages comme nous, le Nielouk ou le Vermentine, c'est des cépages qui sont assez fragiles, donc qui craignent beaucoup la grêle ou le vent, par exemple, quand ils sont tout jeunes encore. On est dans une période très compliquée, que ça soit déjà tout l'hiver qui est passé, on a des automnes, vraiment, on aurait besoin d'eau pour que les nappes phréatiques se re-remplissent et faire les réserves d'eau pour la vigne. Et là, on arrive dans cette période où, justement, ça peut créer des chocs un peu thermiques sur les végétaux. Et bien sûr, ça nous pose des problèmes. Des chocs thermiques qui vont entraîner des épisodes de grêle ou de gel. Ce qui me fait honnêtement le plus peur, c'est vraiment un autre coup de grêle. Celle-là, ça serait vraiment catastrophique. C'est le pire scénario qui pourrait arriver.
Le service Copernicus sur le changement climatique et l'Organisation météorologique mondiale a publié hier d'ailleurs un nouveau rapport alarmant sur les effets du changement climatique en Europe. Les événements extrêmes se multiplient, particulièrement concernés les pays méditerranéens, notamment l'Italie, où l'on parle de tropicalisation ou d'extrémisation du climat. À Rome, Bruno Duvic.
L'Italie a connu plus d'un événement climatique extrême par jour l'an dernier.
La Méditerranée est victime d'un punching ball climatique.
Antonello Pasini est physicien du climat au Conseil national de la recherche. Premier mouvement du punching ball, la chaleur. Ce sont les 45 degrés dépassés en juillet dernier en Sicile et Sardaigne. Ce sont aussi les glaciers des Alpes qui ont perdu 10% de leur volume.
Avant, l'air circulait presque toujours d'ouest en est. Mais désormais, de plus en plus, il circule sur un axe sud-nord-nord-sud. Arrivent d'abord ces anticyclones africains très chauds qui apportent une grande chaleur mais aussi la sécheresse.
L'Italie l'an dernier, c'est aussi 118 épisodes d'inondations dues à des pluies intenses. C'est le deuxième mouvement du punching ball.
Quand ces anticyclones repartent vers l'Afrique, entrent des courants froids qui créent un contraste très fort avec l'air chaud et humide préexistant, le sol chaud et la Méditerranée qui elle aussi se réchauffe. Et alors arrivent les désastres.
Cette extrémisation du climat a un coût. Celui des inondations en Émilie-Romagne et Toscane en mai dernier est estimé à plus de 10 milliards d'euros.
Allez, la santé avec les trois premières années d'études de médecine qui pourront désormais être suivies à Corté à partir de la rentrée 2025. À l'occasion de sa visite en Corse hier, la ministre du Travail et de la Santé a officialisé ce qui se préparait depuis quelque temps déjà. Catherine Vautrin a assuré que le dossier d'agrément du premier cycle d'études de médecine à Corté serait transmis en juillet au Conseil national de l'enseignement pour validation et mise en œuvre à la rentrée suivante. Concrètement, les étudiants qui rentreront en septembre en première année de médecine pourront faire leur deuxième année à Corté en 2025 et la troisième à Corté aussi avant de poursuivre leur cursus en quatrième année à la faculté d'Aix-Marseille. C'est une très bonne nouvelle pour les étudiants et pour les responsables de la filière, comme Liliane Berthe, la directrice de l'Institut universitaire de santé à Corté.
Ils vont pouvoir avoir directement leur stage de deuxième et de troisième année en Corse. Pour l'enseignement, ça sera toujours en partenariat donc avec les universités du continent et pour enseigner certains cours. Et par contre, il pourra y avoir aussi des immersions sur place, sur des simulation ou par exemple l'anatomie. Il y a des lettres d'intention des services, il y a déjà des agréments de services pour recevoir les étudiants puisqu'ils reçoivent déjà les externes et même des internes de spécialité.
Alors, 3 ans d'enseignement et de stage pour lesquels les structures médicales insulaires sont prêtes, selon le professeur Laurent Papazian, médecin à l'hôpital de Bastia et enseignant-chercheur rattaché à la faculté d'Aix-Marseille.
Alors, on part pas de zéro, loin de là, hein, parce que tous les ans, on a des étudiants de plus anciens, hein, de 4e, de 5e, de 6e année, qui font des stages la plupart du temps l'été. Et puis, on a aussi les internes que l'on prend en charge. Voilà, mais là, on a élaboré un programme de stage et une répartition sur des services volontaires qui sera à même de répondre aux besoins des étudiants sans aucun problème.
Et alors que la première année de médecine existe à Corté depuis maintenant 20 ans, près de 74% des étudiants effectuant leur première année ici et qui exercent en médecine générale reviennent s'installer en Corse, 44% pour les spécialistes. Les autres, odontologie, maïeutique, kiné et pharmacie, poursuivent leur partenariat avec les facultés de Nice et de Paris. Et puis, donc, Catherine Vautrin était donc hier en visite en Corse, à l'EHPAD de Vico plus précisément, mais l'occasion aussi pour elle, pour la ministre de la Santé et du Travail, d'évoquer les problématiques de la santé en Corse au micro de Marion Galland.
Il y a du nouveau dans le sens où on a fait le choix déjà de former les 3 premières années de médecine à Corté à partir de la rentrée 25, ce qui est déjà du nouveau et un élément important, tout comme le nombre d'internes qui va arriver, 53 internes vont arriver. Donc on le voit, il y a une volonté de l'État de prendre en compte la nécessité d'équipement. Vous savez, moi je vois très bien le sujet qui est celui des patients qui le matin doivent partir du village, aller à l'aéroport, prendre le vol de 7h, prendre le taxi, aller à la Timone, faire ce qu'on a à y faire et rentrer le soir. Je sais combien c'est fatigant pour les patients, je sais combien c'est également coûteux, mais tout le sujet c'est comment on peut prendre un chemin qui permettra d'avoir plus de réponses. Alors, il y a déjà des choses qui ont pu commencer à se faire. Je pense par exemple à ce qui s'est fait en matière d'ophtalmo récemment à Ajaccio, bon, qui est un complexe privé mais intéressant parce qu'une capacité d'avoir plus de rendez-vous. Voilà un exemple de quelque chose qui s'est fait. Donc je pense que toutes les initiatives méritent d'être regardées.
Mais alors au lendemain de la visite dans l'île de la ministre de la Santé, Binti Minoud y reçoit ce midi Marie-Hélène Le Sen, la directrice de l'ARS, l'Agence Régionale de la Santé. Infrastructures hospitalières, études de médecine, CHU, attractivité et moyens humains, secteur libéral, mais aussi dépendance et fin de vie, les sujets ne manquent pas. Marie-Hélène Le Sen évoquera toutes ces questions au micro d'Hélène Battini. Rendez-vous à 12h30. La justice avec ce dossier où les intérêts financiers ont primé sur les intérêts humains, c'est ainsi que la procureure Maxence Ponruchet a qualifié le réseau de proxénétisme aggravé qui s'est développé à Porto-Vecchio entre 2018 et 2019. Une affaire jugée hier devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio, qui sort de l'ordinaire, et où le ministère public a visé particulièrement le chef d'orchestre présumé du réseau, Nicolas Vabre, 52 ans, qui logeait et protégeait celle qu'il appelait ses filles. Elle a requis contre lui 3 ans de prison, dont 2 années avec sursis et 50 000 euros d'amende. Un exemple criant, selon la substitut du procureur, Maxence Porrochet, du nouveau visage de la prostitution itinérante et logée qui est sortie de la rue.
La prostitution logée et itinérante qui représente effectivement 90% de la prostitution aujourd'hui, c'est-à-dire un petit peu une ubérisation avec des annonces qui sont faites directement sur des sites internet par soit des prostituées directement, soit par des réseaux. Et ensuite une prostitution qui s'exerce directement non plus dans la rue mais dans des logements, alors soit des hôtels, soit des appartements privés. C'est le cœur de ce dossier. Un des individus qui est donc celui qui est le plus impliqué, on va dire, s'occuper de démarcher des prostituées directement par leurs annonces et s'occuper de leur proposer des logements pour venir exercer leur activité directement à Porto-Vecchio. Depuis 2016, la loi est venue reconnaître à ces femmes qui se prostituent le statut de victime. Ce n'est jamais un véritable choix que de venir exercer cette activité. On reste sur des victimes, peu importe finalement les conditions dans lesquelles ces femmes exercent leur activité.
Et à l'audience, il a été évoqué l'activité présumée de Nicolas Vabre qui logeait des femmes contactées sur des sites internet et organiser leur venue, mais il n'est qu'un bailleur, pas le proxénète de l'extrême sud, a plaidé son avocat, maître Antoine Vigny-Orsetti.
Il n'est pas un proxénète implacable, violent, qui va coûte que coûte faire des affaires sur le dos de la misère hein, de ces malheureuses jeunes femmes qui se livrent à la prostitution. Mais aujourd'hui, les temps ont bien changé. En un clic, vous pouvez malheureusement réserver une prostituée. Dans ce dossier, la personne que j'ai défendue n'a fait entre guillemets que leur trouver un logement. Il n'a pas pris un centime sur leurs prestations, il ne les a pas mis sur le trottoir, il ne les a pas battus, au contraire, il les promenait et on sait notamment qu'il a passé des dimanches à la plage avec elle. À un moment de sa vie où il était dans une détresse psychologique, il se retrouve dans cette situation parce que précisément, il est tombé amoureux d'une de ses filles qui a largement profité de lui et qui voulait notamment se marier avec lui dans un seul unique but, celui d'avoir des papiers et d'être régularisé sur le territoire français.
Reportage signé Paul Hortolian. On passe au football, 34e journée de Ligue 2. Ce soir, le Sporting et la CA pourraient assurer officiellement leur maintien. Après deux succès consécutifs à l'extérieur, le SCB a l'occasion, en recevant Concarneau, d'enfoncer le clou. Il suffit d'une victoire au Bastia pour valider leur ticket pour la Ligue 2. Mission largement à la portée des joueurs de Michel Moretti, Jean-Philippe Thibaudeau.
Au bord du gouffre, il y a encore quelques jours, le Sporting a su redresser la tête au moment où personne ne s'y attendait. 3 victoires consécutives à l'extérieur et 10 points de prise sur 12 possibles. Et voilà le club bastiais en position de se sauver dès ce soir. L'équation est simple, s'imposer face à Concarneau.
Ce serait le moyen vraiment d'enfoncer le clou maintenant.
Michel Moretti, coach du SC Bastia.
Faut pas non plus mettre une pression démesurée sur ce match. C'est un adversaire direct dans la lutte au maintien. Et puis pour nous, c'est l'occasion aussi de maintenir notre belle dynamique du moment.
3 jours après avoir réalisé l'exploit à Guingamp, la question est de savoir dans quel état de forme seront les Bastiais ce soir.
Prendre en compte la fraîcheur physique, la fraîcheur mentale des joueurs, voir un peu les forces en présence et ceux qui seront le plus aptes à batailler.
Tous les voyants semblent donc au vert pour un groupe qui a prouvé ces derniers jours qu'il savait faire preuve de solidarité dans les moments difficiles.
On nous parlait beaucoup d'un groupe qui ne prenait pas, et là on gagne des matchs sur tout à fait l'inverse, c'est-à-dire sur de la solidarité, de la complémentarité, du don de soi. Il y a eu une remise en question globale et que les joueurs se sont mis dans la tête que l'important c'était le club, et au final je pense que c'est ça qui fait basculer la réussite de notre côté, parce qu'hormis les bonnes prestations on a aussi de la réussite, mais en ce moment on est en train de la provoquer.
Sans victoire à domicile depuis le 2 mars, le Sporting serait donc bien inspiré de retrouver ce soir le chemin du succès pour valider son ticket pour la Ligue 2.
Un ticket qui pour la CA est quasiment acquis, hein, et ce quel que soit le résultat à Valenciennes, avec 45 points au compteur et 10 points d'avance sur la zone rouge, il faudrait une véritable catastrophe, un cataclysme, Jean-Philippe Thibaudeau, pour ne pas repartir en Ligue 2 l'an prochain.
La messe est dite effectivement pour la CA qui repartira à coup sûr en Ligue 2 la saison prochaine. La question qui se pose désormais est de savoir dans quel état d'esprit seront les Ajacciens. Pour Olivier Pantalogne, le coach de la CA, l'objectif est désormais de se faire plaisir.
Aujourd'hui, je pense que les joueurs doivent prendre du plaisir sur le terrain par rapport au fait que voilà, il y a plus aucune pression. Jouer totalement libéré, essayer de prendre un maximum de plaisir tout en gardant le sérieux, la rigueur. On va jouer là-dessus.
Tout en gardant, pourquoi pas dans un coin de la tête, la possibilité de revenir en trombe dans la course au play-off. Une éventualité balayée par Olivier Pantalogne à l'issue de la victoire face à Caen, mais une éventualité pourtant bel et bien réelle. Mais pour y croire, il faudra enfin s'imposer à l'extérieur. En se déplaçant à Valenciennes, actuelle lanterne rouge, la mission est loin d'être impossible, mais il faudra se montrer très vigilant.
C'est une équipe reléguée, je pense qu'elle va s'accrocher jusqu'au bout pour prendre un maximum de plaisir et gagner un maximum de matchs. Et encore une fois, moi je reste persuadé que c'est une équipe qui a envie aussi d'offrir des victoires. Donc il faut s'attendre à ce genre de confrontation.
Avec ce déplacement à Valenciennes, l'ACA a l'occasion de mettre fin à plus de 5 mois de disette à l'extérieur.
Valenciennes ACA, Sporting Concarneau, deux rencontres à suivre en direct sur France Bleu RCFM à partir de 20h45. L'invité de la rédaction était ce matin sur RCFM, Jean Brignolet, pour évoquer les 40 ans du STC, le syndicat des travailleurs corse. Le STC fête ses 40 ans le 1er mai prochain à Corté. Et ce matin, il répondait aux questions de Roland Frias.
Jean Brignolet, bonjour.
Bonjour.
Alors, lorsqu'on évoque le STC, il y a un mot qui vient à l'esprit, forcément, c'est le mot combat. Un combat social, mais aussi en faveur de la libération nationale corse. Alors, face aux mutations de la société, et au fil des années, comment équilibrez-vous ces deux fondements de votre démarche au profit des travailleurs ?
Mais concrètement, notre ADN, c'est libération sociale et libération nationale sont indissociables et complémentaires. Et donc, depuis toujours, on a œuvré pour que la Corse soit au centre de nos préoccupations et la défense des travailleurs au sein de ce territoire doit être le fil conducteur pour nous. Donc il ne pourra pas y avoir d'émancipation nationale sans une émancipation sociale.
Alors 40 ans, et votre sigle n'a pas changé, c'est unique dans le nationalisme corse, nationalisme dont vous avez toujours été une composante fédératrice, tout courant politique confondu, y compris dans les moments les plus durs. Comment l'expliquez-vous ?
Mais je crois qu'à un certain moment, lorsqu'on fait passer l'intérêt des travailleurs et l'intérêt national devant tout, on ne peut être que fédérateur, on ne peut être que l'endroit où on l'a vécu en 99, à l'époque de l'incarcération de notre secrétaire général. Nous avons été à l'initiative d'une manifestation où les nationalistes, après des périodes sombres, se sont retrouvés. Pourquoi ? Parce qu'il y avait à défendre un principe, il y avait à défendre des valeurs. Et je crois que le STC a toujours œuvré, il œuvre encore aujourd'hui, il a participé hier soir à une réunion par rapport à la répression, et il a été une des composantes d'un appel. Donc concrètement, nous sommes dans la lignée de ce qui a été fait en 84 et
d'un appel du FLNC.
À l'appel du FNC, puisque à l'époque, le STC, la politique des contre-pouvoirs, a été créée par une volonté politique de l'organisation politico-militaire, mais le STC s'affranchit aussi de son indépendance en 91 dans son congrès qui était quand même malheureusement le début d'une période trouble pour les nationalistes, mais il a contenu tout cela, il a maintenu son sigle, parce que c'est très important de le dire. Moi je suis un de ceux qui étaient là au début, je me dis que si tout le monde avait fait la même chose, peut-être qu'on n'en serait pas là. Aujourd'hui nous avons gardé notre sigle, nous avons gardé notre ADN, nous continuerons à le garder, je crois que pour les décennies qui viennent, et j'espère que ça ira encore mieux.
Alors ça, tout ça, cet ADN, cette philosophie, ça sera mis en perspective, je dirais même en rétrospective, le 1er mai prochain à Corté. Voilà, c'est important de marquer le coup, c'est 40 ans.
Oui, on va marquer le coup, puisque c'est 40 ans, on a fêté les 20 ans, on n'a pas fêté les 30 ans, mais on fête les 40 ans. 40 ans, c'est, quand on a 40 ans, c'est bien, on est toujours jeune, mais on a quand même beaucoup d'ancienneté déjà, beaucoup de luttes, comme vous l'avez dit au départ. Et je dirais une chose, le STC, c'est pas le syndicat des travailleurs corses. C'est au syndicat des travailleurs corses. Même dans sa dénomination, tout le monde dit syndicat des travailleurs corses, mais sa véritable dénomination déposée en préfecture, c'est syndicat des travailleurs corses. Et ça a une connotation importante parce que de partout où que l'on aille, nous faisons valoir ce sigle-là, y compris dans des réunions au plus haut niveau. C'est ce sigle-là qui est mis en avant et pas d'autres.
Alors, parmi les actions les plus médiatiques des quatre décennies écoulées, le détournement du Pascal Paoli de la SNCM en 2005 dans le port de Marseille avec aux commandes Alain Moscone, figure de proue du STC Marin, il a décidé en décembre dernier de quitter le syndicat suite aux élections des représentants du personnel de la Corsigaline et à élections qui ont vu la CGT prendre le leadership. Vous comprenez son choix ?
Écoutez, les relations que j'avais avec Alain Moscone depuis 10 ans n'étaient pas bonnes, n'étaient presque nulles. Donc concrètement, je ne vais pas, m'appesantir sur son devenir. Aujourd'hui, il y a besoin au niveau de Corsigaline, à Méridional et d'autres compagnies d'avoir une organisation syndicale forte. Nous sommes aujourd'hui en phase de remettre, je dirais, au pot le fait que les compagnies doivent travailler ensemble. On a vu que très souvent elles pouvaient ne pas avoir les mêmes intérêts. Nous, pour nous, que ça soit dans les DSP ou que ça soit y compris dans la gestion normale, les deux compagnies, la Méridionale et la Corsigaline, doivent travailler ensemble. Les organisations syndicales STC à l'intérieur doivent travailler de concert avec l'exécutif du syndicat.
Alors, le temps file, on va revenir au fil conducteur de cet entretien, celui du combat. Le combat, cette fois, pour la légitimité, la légalité, la représentativité face à l'État, face à certains autres syndicats. Malgré les évolutions législatives en France, c'est encore et toujours d'actualité. Jean Brigne, c'est ce que vous dénonciez hier, d'ailleurs, à Luciane.
On dénonce à Luciane, et puis en plus, on a appris il y a quelques temps et on passe aujourd'hui au tribunal à Paris puisque une organisation syndicale au niveau national qui conteste notre candidature aux prochaines élections TPE de la fin de l'année sous couvert que nous ne serons pas une organisation syndicale. Donc 40 ans de lutte, 40 ans de combat, 40 ans de victoire électorale auprès des salariés, des fonctionnaires. Je crois que nous, on n'a pas besoin d'aller chercher un modèle autre part. On a le nôtre Et aujourd'hui, jusqu'à présent, il est performant.
Alors, dernière question, Jean Brignolet. Pour vous, l'autonomie de la Corse doit être source d'avancée sociale pour les travailleurs. Le projet constitutionnel a été voté à l'unanimité le 27 mars dernier à l'Assemblée de Corse. La prochaine étape doit être l'examen du texte au Parlement. Alors, le curseur social est-il, selon vous, au bon niveau dans
concrètement, et on l'a dit à plusieurs reprises, que ça soit en direct auprès de la collectivité de Corse, y compris au niveau du Conseil économique, nous avons toujours dit qu'il fallait des avancées sociales. Aujourd'hui, on nous parle de conférences sociales. D'ailleurs, aujourd'hui, nous avons une réunion CESEC qui va parler de l'emploi et autres. Et on parle de la mise en place d'une conférence sociale. Pour nous, la conférence sociale, elle est indispensable si on veut véritablement réussir un statut d'autonomie. Parce que statut d'autonomie sans avancée sociale, ça ne peut pas correspondre. Ça peut correspondre peut-être à des partis politiques, mais sûrement pas à notre organisation syndicale.
Et l'ITRC, c'est un premier jalon pour vous?
L'ITRC, c'est clair. Aujourd'hui, l'ITRC, elle a été étendue. Elle a été élargie par un arrêté ministériel. Ça veut dire que depuis le 18 mars, toutes les entreprises du privé de Corse ont obligation de payer l'ITRC. Ça, c'est un grand pas, parce que ça peut être vu par le petit bout de la lorgnette en disant ce n'est que 400 euros, 300 ou 400 euros par an. Mais aujourd'hui, c'est la seule, le seul accord interprofessionnel sur un territoire qui vaut loi. Et c'est pour nous le modèle à suivre pour demain, si demain on veut instaurer un SMIC Corse, si on veut instaurer des conventions collectives interprofessionnelles en Corse.
Merci Jean Brignolet, vous êtes le secrétaire national du STC, merci d'avoir été notre invité ce
merci
matin sur RCFM.
Le STC qui célébrera donc ses 40 ans le 1er mai prochain à Corté. On passe à la Méditerranée avec l'éducation des jeunes aux médias. Cette semaine dans Marais Ladine, Jérôme Souzine nous propose une série de reportages qui ont été réalisé à Naples dans le cadre de l'Assemblée Générale de la COPEAM, COPEAM, l'audiovisuel de la Méditerranée. Et aujourd'hui, ce mardi, Jérôme Souzigne est avec nos amis de France Bleu Hérault.
Et notre consoeur de France Bleu Hérault, Anne-Marie Amorose, bonjour.
Bonjour.
On est bien sûr dans un contexte un peu bruyant, normal, au plein cœur de Naples. Vous étiez là à Naples pour présenter devant la COPEAM votre expérience à la radio auprès des jeunes.
En fait, on a créé à France Bleu Hérault, dont je suis la directrice, un festival qui s'appelle « À hauteur d'enfant ». Et ce festival, ce sera la 4e édition cette année. Ce sont des ateliers pour que les enfants puissent expérimenter, puissent fabriquer des contenus, puissent apprendre à faire un journal de radio, mais aussi maîtrisent mieux le son et l'audio. Parce que nous avons inversé la question. Est-ce que la question, c'est de dire aux enfants ce qui est bien, pas bien, avec les réseaux sociaux, par exemple, ou avec ce qu'ils écoutent, ou les vidéos qu'ils regardent? Ou est-ce que la question, c'est de dire, nous devons partir de la façon dont ils utilisent ces réseaux pour leur permettre d'apprendre ce qu'est une bonne et une mauvaise information, ce que sont les bons contenus ou pas, ceux en tous les cas qui sont vérifiés.
Ça veut dire qu'il y a une équipe dédiée à cela, on leur apprend le métier?
Alors il y a plein d'intervenants qui viennent d'un peu partout, certains sont de Montpellier, on a une journaliste, Claire Moutarde, qui travaille avec nous et fait une chronique quotidienne toute l'année à hauteur d'enfant. On a un collectif qui est venu par exemple de Belgique, on a des artistes qui travaillent sur le son, des radios associatives qui travaillent sur l'éducation aux médias, on a plein de partenaires et d'intervenants qui pendant 4 jours vont animer ces ateliers.
Que vous faites dans votre région? On peut l'imaginer ailleurs.
On crée un groupe de travail jeunesse que je vais piloter dans le cadre de la COPEAM. L'idée, c'est qu'on se nourrisse de toutes les expériences qui existent dans le bassin méditerranéen avec les autres médias et qu'on construise ensemble une manière d'approcher les enfants et de construire les médias de demain pour ces enfants, avec eux.
Eh bien, Anne-Marie Amoros, merci d'avoir été sur notre radio. Bonjour à tous vos auditeurs.
Merci beaucoup et merci à vous.
Marie-Ladine avec Jérôme Souzigny. En bref, sachez qu'à la rentrée de septembre, les bourses scolaires seront versées automatiquement aux 1,5 million de bénéficiaires sans qu'ils n'aient à remplir le moindre formulaire. Le Premier ministre Gabriel Attal l'officialise aujourd'hui, cette initiative, lors d'un déplacement dans une maison France Service dans les Hauts-de-Seine. Et puis à cette occasion, le chef du gouvernement, et on en parlera, va également annoncer la généralisation progressive de l'intelligence artificielle au service des usagers de l'administration. Voilà pour l'information. Retour de l'actu sur RCFM, la radio, c'est à 16h. L'info, c'est quand vous voulez, sur Bleu RCFM et nos réseaux sociaux, X et Facebook. Dans quelques instants, à 12h30, l'émission du mardi, Minti Minoudi, Hélène Battini recevra Marie-Hélène Le Seine, la directrice de l'ARS.